Précédemment, dans les veuves désespérées. Voilà un peu comment aurait pu commencer cette prédication de ce matin, si l'espérance n'était pas en marche, si une étincelle de vie, fruit de l'action de Dieu, ne s'était pas révélée à deux pauvres femmes, Ruth et Naomi. Ces femmes, dont le destin est lié par le décès de leur mari. Ces femmes qui se retrouvent dans leur pays, dans son pays pour l'une et dans un pays étranger pour l'autre. Ces femmes qui vivent dans un environnement particulier, à une période de l'histoire d'Israël, ce petit peuple qui connaît chaos politique, alternance politique, oppression extérieure et puis un certain relativisme religieux. Le tableau est sombre pour ces deux femmes. Précédemment donc, dans les veuves désespérées. Mais en réalité, pour un temps. Puisqu'effectivement, Dieu va conduire ces deux femmes. L'une a quitté son pays, l'autre à rejoindre le sien, pour pouvoir vivre dans cette petite ville de Bethléem. La nuée de la mort semblait s'étendre. Mais Dieu n'est pas loin. Naomi, Ruth sont maintenant à Bethléem. Et voici que Naomi, constatant son incapacité à assurer une descendance pour celle qui est restée auprès d'elle, voici qu'elle l'invite, qu'elle la libère de ses devoirs et qu'elle prie en disant que Dieu te donne à toi, Ruth, et à toi, mon autre belle-fille, le bonheur dans un nouveau foyer. Et vous le savez, Ruth, par fidélité, par amour, est restée avec Naomi. Et voici que par le hasard des choses, un jour qu'elle glanait quelques épis dans un champ, comme la loi le prévoyait pour les plus démunis, elle rencontre, par le fruit d'un hasard, Boaz, qui n'est autre qu'un proche parent de son mari décédé. Et donc la possibilité, peut-être, de retrouver le bonheur et l'espérance d'avoir une famille. Oui, comme le dira Naomi lorsque Ruth l'informera que comme par hasard, le champ dans lequel elle est en train de glaner est celui de Boaz. Voici ce que dira Naomi à Ruth. « L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. » Elle, l'affligée, rend grâce à Dieu parce qu'elle voit dans son parcours des petites étincelles de l'action de Dieu, des petites étincelles qui renouvellent son espérance et qui la remettent en marche. Et nous arrivons donc au chapitre 3, que nous allons lire et méditer ensemble. Chapitre 3 du livre de Ruth. Noémie ou Naomi, selon les traductions, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. » Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, ils doivent vanner l'orge amassée dans l'air, à IRE. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi. Écarte la couverture pour lui découvrir les pieds et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me diras. » Elle descendit donc dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Bose mangea et but, et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement, elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Bose eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. »« Que l'Éternel te bénisse, » dit Bose. « Ce que tu viens de faire, ma fille, est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Mais maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demanderas, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse la reconnaître. Car Bose avait dit, il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'elle parte, il lui dit, donne la cape que tu portes, tiens-la bien. Elle la tint ainsi, et il y versa 25 litres d'orge, et l'aida à la charger sur elle. Puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda, comment les choses se sont-elles passées ? Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta même, « Il m'a donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit, tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit, « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront. Car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Amen. » Alors c'est vrai que c'est un passage sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je souhaiterais simplement parler de trois mots ce matin. Audace, obéissance, intégrité. A-O-I. L'audace. D'abord de Naomi. Naomi qui s'adresse à sa fille. Celle qui vient de changer de relation avec elle. Elle le sait. Naomi est incapable de lui fournir le bonheur dont Ruth aurait besoin. Alors, vous l'avez constaté, elle va mettre sur pied un petit stratagème, un petit plan. Elle va au fond agir alors qu'elle voit Dieu en train d'agir. Elle va commencer, au fond, à exaucer la prière qu'elle avait faite pour Ruth. Elle va agir. Parce qu'en fait, Naomi a de la suite dans les idées. Vous l'avez remarqué. Et sachant que Bose, comme par hasard, était un proche parent, il faut quand même donner un petit coup de pouce au destin parfois. Alors elle met en place un plan. Imparable. Parce qu'elle entend la main de Dieu, la voix de Dieu derrière ce qu'elle vit et ce qu'elle voit. Cette petite voix qui lui susurre, et si ? Et si ? Et si cet homme-là était l'instrument qui allait répondre à ta prière ? Et si ? Alors Naomi, ni une ni deux, organise les choses et s'adresse à Ruth et essaye de mettre en œuvre les meilleures conditions pour que potentiellement le mariage ait lieu. Ainsi, elle commence par lui demander de se laver. Ça va de soi. Si on veut être agréable à la vue, ou plutôt à l'odorat, il vaut mieux se laver. Ensuite, une fois qu'elle a coché, Ruth, lavé, ça c'est fait. Elle lui demande de se parfumer. Check, comme disent les jeunes. Bon. Elle lui demande ensuite de changer de vêtements. Pareil, en principe, quand on veut séduire, on met ses plus beaux apparats, n'est-ce pas ? En gros, elle lui demande d'être séduisante, attirante, à première vue. Elle est en train de lui dire, Naomi à Ruth, « Ruth, habille-toi comme jamais pour être attirante, pour être séduisante auprès de ce jeune homme. » Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, ce sont des simples conseils de séduction, très bien, ça va un peu de soi, de se laver, parfumer, s'habiller, si on veut aller séduire. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'en réalité, ce que Naomi est en train de faire avec Ruth, elle est en train de lui ouvrir le chemin de la vie. Elle est en train de lui dire « Ton deuil est fini. » Comme le fera son descendant, le roi David, lorsqu'il perdra son enfant. Elle est en train de libérer du poids de la tristesse, de la solitude. Aussi, ces paroles de Naomi sont bienveillantes. Elles ne sont pas simplement des conseils de séduction, mais des paroles qui libèrent à la vie, des paroles qui lui libèrent l'accès au bonheur. Alors, une fois qu'elle a dit ça, une fois que Ruth est libérée du poids de la tristesse, une fois que Naomi l'autorise à marcher sur le chemin de la vie, voici qu'elle lui dit de faire attention, d'y aller de nuit pour ne pas se faire voir, et d'attendre que Boaz ait bien mangé et bien bu. Autrement dit, après une belle journée harassante au champ, une fois qu'il aura bien mangé, bien bu, alors peut-être du vin, on ne sait pas. Autrement dit, il risque de s'endormir assez vite. Mais alors attends, Ruth, attends ce moment où la digestion et les quelques petits effets du vin aient fait leur action sur ce brave Boaz. Et attends que le silence, attends que tout le monde soit endormi, pour qu'il y ait les conditions les plus idéales, pour que cette rencontre entre ces deux êtres qui étaient voués à s'aimer ait lieu dans des bonnes conditions. Et remarquez que Ruth ne dit rien. Elle écoute. Même lorsque Naomi va plus loin en lui demandant des choses assez étranges. Elle lui dit d'enlever la couverture, de découvrir ses pieds à ce cher Boaz et à se coucher à proximité de ses pieds. Je ne sais pas vous, mais il y a quand même plus séduisant comme approche, plus délicat, plus sensuel a priori. Alors certains commentateurs de ce passage y voient une façon imagée de décrire une volonté d'un acte plus intime. Se découvrir, c'est être nu. Les pieds, un euphémisme pour parler des organes génitaux. Et puis se coucher, n'est-ce pas, parler de relations sexuelles ? Bon. Au vu de ce qui sera dit sur Ruth après, et de tout le contexte du livre, il me semble plutôt que là encore, Naomi conduit Ruth sur des chemins de vérité. Parce qu'au fond, s'allonger aux pieds de Boaz, c'est ni plus ni moins que montrer sa situation, reconnaître qu'on est serviteur, servant. Que dira Jean-Baptiste lorsqu'il parlera de Jésus ? Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Naomi conduit Ruth sur les chemins de l'humilité. Et en découvrant la couverture, n'est-ce pas aussi la possibilité d'être recouverte, de se recouvrir ? Et comme le dit le verset 9, l'idée derrière ça, c'est l'image de ce fiancé qui couvre du pan de son manteau sa fiancée pour lui assurer la protection. Mais il faut que la couverture soit découverte pour qu'elle puisse être couverte. Et puis enfin, de façon tout à fait prosaïque et terre à terre, imaginez ce bon vieux Bose. Il vient de travailler d'arrache-pied. Il a bien mangé, bien bu, il est content et il s'endort. Mais quand on va découvrir ses pieds, alors qu'il est en train de dormir dehors dans les champs, il y a parmi nous quelques flambeaux, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, mais découvrir les pieds alors qu'on est en train de dormir dehors en pleine nuit, pas très agréable. Et on risque, à un moment donné, de se réveiller tranquillement au milieu de la nuit. Et c'est ce qui va d'ailleurs se passer. Le texte nous le dira. Bose va frissonner et ça va le réveiller. Le réveiller au milieu de la nuit pour permettre ce moment privilégié, déterminant, où les deux êtres qui s'aiment vont pouvoir se parler et se rencontrer. C'est quand même audacieux, ce que Naomi est en train de dire à Ruth. Elle est audacieuse. Parce que son plan est très risqué. D'abord, si Ruth est prise en flagrant délit, imaginez une jeune femme en plein milieu de la nuit, sur un chantier d'ouvriers, en plein milieu de la nuit. Et bien, c'est à peu près la même chose dans cette ère d'abattage. Il n'est pas commun d'avoir une jeune femme qui se promène la nuit, sauf si elle a des intentions et des activités douteuses. Donc le risque est grand pour celle dont on parle, dont on décrit sa vertu. Ensuite, second risque, Bose pourrait mal comprendre la démarche de Ruth et y voir une proposition quelque peu indécente. La compromission d'une femme qu'il trouvait vertueuse jusqu'à là. Bose pourrait d'autre part très mal réagir et trouver cette démarche complètement ridicule, incroyable. Lui, un riche homme, propriétaire, puissant, notable d'Israël, recevoir une demande en mariage d'une pauvre veuve, étrangère, sans enfant. Ça serait quand même le comble. Un homme, en plus âgé, qui épouse ou qui épouserait une jeune femme, on a l'impression d'être dans les gros titres de certains magazines. Bose pourrait aussi abuser de la vulnérabilité de cette pauvre femme en obtenant des faveurs de charme. Et Bose pourrait ne pas vouloir se compromettre parce que techniquement, Ruth, même si elle est veuve, est toujours mariée à Malone. Mais il y a aussi la possibilité, une toute petite possibilité, que Bose réagisse bien au milieu de la nuit. Même s'il est un peu groggy, même s'il est en plein milieu de sa digestion, en plein milieu de sa nuit de sommeil, il y a peut-être une petite chance pour qu'il réagisse bien et qu'il réponde favorablement à la demande de Ruth. Alors Naomi, pour reprendre le dicton un peu à l'envers, voyant que le ciel l'aide, va aider Ruth. Si tu veux marcher sur l'eau, eh bien, il faut sortir du bateau. Il faut oser. Et c'est ce que Naomi est en train de faire. L'audace. Deuxième mot, clé. Obéissance. Ah là là. Un mot bien difficile à entendre pour nos petits-enfants, n'est-ce pas ? Obéissance. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai parfois du mal à faire obéir mes enfants. Parce que je leur demande de faire quelque chose, et la tendance, et même à nous aussi adultes, quand on nous demande de faire quelque chose, on peut avoir une tendance à revendiquer. Mais non, mais j'ai droit à ce qu'on me laisse tranquille. Ou à négocier. Ça, c'est le propre de mon garçon. Mais si je fais ça, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Ou le questionnement. Tu me demandes de faire quelque chose, mais pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? Et là, vous avez remarqué ce que fait Ruth, ce qu'elle dit au verset 5. « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle obéit à sa belle-mère. Vous imaginez une belle-fille qui obéit à sa belle-mère en faisant tout ce qu'elle lui dit. Alors, je ne sais pas s'il y a des belles-mères et des belles-filles aujourd'hui, mais ce n'est pas si facile que ça. Mais pourquoi donc Ruth a cette réaction d'obéissance ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais une fondamentale, me semble-t-il, c'est qu'elle connaît la motivation de Naomi. Naomi lui veut du bien. Elle veut son bonheur. Aussi Ruth accepte, reçoit ses consignes, parce que l'intention est pure. L'intention est bonheur et bienveillance. Elle le fait aussi parce qu'elle a conscience du respect qu'elle doit à sa belle-mère. Et elle le fait également parce qu'elle sait aussi, elle connaît ses limites. Elle sait qu'elle ne connaît pas les façons de faire pour demander quelqu'un en mariage dans ce pays. L'intention bienveillante, connaître ses limites, faire confiance. Voilà au fond les conditions qui permettent à Ruth d'obéir. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est par son obéissance que le plan va se dérouler. Elle va d'abord obéir à Naomi, et puis ensuite à Boaz. Troisième mot-clé, intégrité. Ce que Boaz notera nous dire par son attitude. Ça pourrait être un slogan qui pourrait se résumer ainsi, intégrons l'intégrité. Pas mal pour une campagne de présidentielle, non ? Intégrons l'intégrité. Parce qu'au fond, pendant toute cette période, tout cet épisode, Boaz va avoir un comportement intègre, droit, juste. En fait, il aurait pu mal réagir, on l'a vu. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Et il se montre remarquable, cet homme-là. Parce qu'au lieu d'abuser de la situation, il reconnaît la fidélité de Ruth. Au lieu de se laisser aller, un peu grisé par l'alcool peut-être, groggy, il appelle Ruth, sa fille. Il reconnaît cette relation familiale existence et le devoir qu'il a vis-à-vis d'elle. Au lieu d'obtenir ses faveurs, il la bénit. Au lieu de la rabrouer pour son audace, elle, la pauvre veuve, éplorée et étrangère, il la rassure. Et bien plus, à son tour, il lui promet de faire tout ce qu'elle dira. Au lieu de la prendre pour une femme de mauvaise vie, il reconnaît en elle et dans ses motivations une femme de valeur. Au lieu de la renvoyer d'où elle vient, il l'accueille. Au lieu de tordre même les choses, contourner la loi pour pouvoir épouser cette femme, il va reconnaître qu'il y a quelqu'un avant lui, un plus proche parent. Et au lieu de mépriser Ruth et de mépriser ce proche parent, il va s'engager par serment devant Dieu de l'épouser si les choses le permettent. Intégrons, intégrer l'intégrité. nous dit Bose. Mais pourquoi ? Pourquoi est-il si intègre ? Bon, il y a plusieurs explications. J'en relèverai juste deux. Il me semble que Bose a confiance. Confiance que Dieu honore celui qui agit avec justice. Comme le dira Jésus à ses disciples. Donnez, et l'on vous donnera. Deuxièmement, me semble-t-il, son intégrité s'explique par sa connaissance de la loi, de la parole de Dieu. Il est un homme qui se laisse façonner, transformer par la parole de Dieu, façonner par cette parole qui lui donne accès à ce qui est juste, bon et parfait. Se laisser façonner par la parole de Dieu. Et par son intégrité, comme Naomi avec son audace, Bose va répondre lui-même à la prière qu'il avait faite aussi pour Ruth. Audace, obéissance, intégrité définissent ce que ces personnages, Naomi, Ruth et Bose, nous invitent. Une audace confiante, une intégrité confiante et une obéissance confiante que Dieu est en train de conduire les choses. Parce que c'est ça la force et la conviction de ces trois personnages. C'est ils ont conscience, ces trois personnages, d'être et de faire parce que Dieu est en train d'agir au milieu d'eux, à travers eux. Ils le savent. Ils savent voir ces petites flammes qui jaillissent sur le chemin de leur vie. Car comment se fait-il que Ruth tombe par hasard sur un champ dont le propriétaire est un proche parent ? Comment se fait-il que Bose ait une réaction si positive ? Comment se fait-il ou se fera-t-il qu'à peine Bose s'assoit aux portes de la ville pour gérer cette affaire, que ce proche parent dont il est question arrive ? Comment expliquer que ce prétendant va s'excuser, laissant la porte ouverte à Bose et Ruth ? Comment expliquer enfin que Bose et Ruth aient un enfant, Obed, alors que Ruth n'ait pas eu d'enfant avec Malone, alors qu'ils étaient mariés pendant 10 ans ? Le livre de Ruth nous conduit à comprendre et à mesurer l'action de Dieu dans le quotidien de ces vies ordinaires. Dieu agit dans notre ordinaire, dans notre quotidien. Alors, à l'image du Christ, pour conclure, chers amis, et façonné par le Saint-Esprit, en ayant bien sûr conscience que Dieu est au milieu de nous, que Dieu tient toutes choses, que Dieu agit à travers nous, par nous et pour nous. Naomi, Ruth et Bose nous parlent ce matin en nous disant « Ayez de l'audace, ayez l'audace de la foi, de vivre de la foi, là où vous êtes. Ayez de l'audace. » Soyez aussi obéissants à cette parole que Dieu nous donne. Méditons sa parole pour apprendre ce qui est bon, juste et parfait, et qu'elle puisse guider et conduire nos pas. Et enfin, intégrons l'intégrité, que nous puissions avoir un comportement juste, droit, là où Dieu nous a placés, dans nos familles, dans notre travail. Lui qui nous a donné sa parole, lui qui nous a donné son Esprit Saint, qui nous aide à être intègres et justes. Que le Dieu de miséricorde et de grâce, chers amis, chers frères et sœurs, vous bénisse et vous garde, qu'il vous conduise sur les chemins de la vie. Amen.
Thank you.